Histoire profonde de la Chine, évolution de l'histoire du monde chinois, c'est ce que nous venons d'évoquer à propos du livre de Jacques Gernet, Le monde chinois, Armand Collin, collection Destin du monde. Bien entendu, je crois qu'une évolution toute naturelle nous conduit à parler maintenant de la Chine actuelle. Bien qu'il n'y ait pas dans votre livre, Jacques Gernet, une étude de la Chine actuelle, on sent que d'une certaine façon, tout votre ouvrage tend à éclairer la position de l'histoire actuelle de la Chine et comment voyez-vous cette relation entre passé et présent dans l'histoire du monde chinois.
Eh bien, je crois qu'il faut toujours en revenir à ces clichés qui tiennent lieu de connaissance sur la Chine et sur les pays de l'extrême-orient en général. Il y a même des gens qui emploient le mot d'Orient, d'oriental, qui parlent de tout ce qui n'est pas occidental, n'est-ce pas? Et tout ça est confondu dans un magma qui n'a aucune ligne précise, qui a aucun principe d'organisation. Pour beaucoup de gens, les Indiens, les Chinois, les Japonais, tout ça, c'est la même chose. On ne sait pas distinguer un Coréen d'un Vietnamien. Pourtant, il y a autant de différences entre un Coréen et un Vietnamien qu'entre un Scandinave et un Arabe. Par conséquent, il y a tous ces clichés ridicules dont il faudrait d'abord se débarrasser. La Chine, ça n'est pas moins compliqué ni moins passionnant parce que c'est loin. Et l'histoire de l'homme a partout le même intérêt et la même dignité. On dira bien sûr oui, mais aujourd'hui on s'intéresse surtout à la Chine actuelle et j'ai entendu certaines critiques sur mon livre disant, enfin une façon d'en parler rapidement, n'est-ce pas? Oh, c'est un livre qui ne parle pas de la révolution culturelle, qui ne parle pas de la Chine de Mao Tse-tung, c'est un ouvrage sur la Chine classique. Mais cet intérêt pour la Chine la plus actuelle ne remet pas en cause les clichés. Les clichés restent là par derrière. Au contraire, je dirais que du fait même que les gens aujourd'hui sont absolument hypnotisés par le maoïsme, par le phénomène de la Chine maoïste, les questions fondamentales sont laissées systématiquement de côté. C'est-à-dire les questions d'évolution de l'humanité en général et du prolongement de cette évolution jusqu'à nos jours, la question de savoir ce que le monde d'aujourd'hui doit à la Chine et aux différents pays d'Asie, toutes ces questions-là ne sont pas posées. Pour une raison simple, c'est que quand on s'intéresse à la Chine la plus actuelle, qui intéresse surtout, c'est le sensationnel d'abord, c'est la mort de Lin Biao, sa disparition, les querelles intérieures au Parti communiste chinois, les préséances de savoir qui est en avant, qui est parti, etc. C'est l'événement, c'est le temps court d'abord, et les problèmes de temps long ne se posent absolument pas. Et alors, on s'imagine que cette Chine actuelle est quelque chose de profondément, radicalement différent, qu'il y a eu une rupture totale, exactement comme si on disait l'Europe d'aujourd'hui est quelque chose d'absolument différent, radicalement autre que ce qu'a été l'Europe dans le passé. Or, il est impossible de comprendre ou de dire quelque chose de raisonnable sur l'Europe moderne, sans tenir compte de la Renaissance, sans tenir compte du Moyen-Âge, de l'héritage de l'Antiquité classique gréco-romaine. Alors, on cherche à fixer une date à partir de laquelle cette rupture s'est produite. Il y a des gens qui maintiennent, n'est-ce pas, beaucoup d'historiens, qui considèrent que la Chine moderne, ça commence en 1840 avec la guerre de l'opium. Pourquoi en 1840 les influences occidentales se sont exercées bien avant? Il y a eu même le christianisme nestorien qui s'est implanté en Chine au 7e siècle. Bon, admettons qu'en 1840, la Chine entre dans le circuit général de l'évolution de l'Occident parce que l'Occident est entré en Extrême-Orient. Mais cette coupure, on la place aussi beaucoup plus tard. C'est en 1911, au moment de la fin de l'Ancien Régime. Ou bien c'est 1909, le fameux mouvement du 4 mai qui qui mène à la révolution de 1949 et à la libération de 1949, la création de la République populaire chinoise. Puis il y a des gens qui vont encore plus loin, qui vous diront que c'est la Chine nouvelle, c'est la révolution culturelle de 1966. Alors, tout ça, ce n'est pas sérieux.
Bien sûr, et je vous remercie de rappeler qu'en histoire, il n'y a jamais d'année zéro.
Exactement. Exactement. Non, mais ce que je voudrais combattre, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très insidieux. C'est cette idée qu'il n'y a d'histoire universelle que d'histoire, en fait, de l'Occident. Il y a l'Occident qui a été un monde qui a évolué, qui a été dynamique, etc., qui a tout fait, en somme. Et puis, les civilisations extérieures ne s'y rattachent qu'à partir du moment où elles sont intégrées à l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire que l'histoire, il n'y a qu'à voir les manuels scolaires, l'histoire de la Chine est intégré au manuel scolaire à partir du moment où il y a pénétration occidentale en Extrême-Orient. Mais tout ce qui est avant n'a plus qu'un intérêt de curiosité, ça ne se rattache pas à l'histoire de l'Occident, telle qu'on la conçoit.
Vous me pardonnez, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse dans ce que vous nous dites. Il y a des choses qui m'ont paru passionnantes dans votre ouvrage. Et ce sont les moments où vous évoquez la façon dont les Chinois ont fait eux-mêmes leur histoire. Je peux vous demander quelques mots sur... Y a-t-il d'abord une conception chinoise de l'histoire? Et comment l'historiographie chinoise, ça se présente comment?
Il y a toute une historiographie chinoise qui est extrêmement passionnante et qui a des étapes, des époques.
C'est ce qui m'a paru.
Une histoire, proprement dit. Non, il serait peut-être trop long d'y venir. Ce qu'on pourrait en tout cas marquer, c'est l'historiographie la plus récente, qui est une historiographie qui va dans le sens précisément des thèses occidentalistes les plus absurdes. C'est-à-dire que on a une variante du schéma traditionnel, la Chine monde nouveau à partir du moment où l'Occident y pénètre. La Chine est devenue monde nouveau à partir du moment où elle a fait sa révolution communiste en 1949. Avant, c'était un monde stagnant, misérable, qui ne bougeait pas, qui se reproduisait un monde d'exploitation féodale, semi-coloniale. Et puis, il y a eu cette rupture radicale de 1949, ou même 1966 avec la révolution culturelle.
Oui, je vois, excusez-moi de vous couper, mais que dans l'ensemble du tiers-monde, on rencontre d'ailleurs cette attitude, ce mythe historiographique qui fait débuter l'histoire des pays du tiers-monde à un moment de rupture récente et où, je crois que sans s'en rendre compte, les historiens et les dirigeants du tiers-monde tombe dans le piège de l'historiographie occidentale, Denis Lombard.
Ce n'est pas propre à l'histoire de Chine, je crois, mais c'est d'autant plus grave quand, justement, dans le cas de la Chine ou de l'Inde, par exemple,
il y a
une tradition historique extrêmement
longue. Exactement, parce que là, c'est un tel mensonge par rapport à leur passé.
Je crois
Michel Cartier, oui.
Il ne faut pas mélanger. Il y a une vue des maoïstes parisiens qui disent la Chine commence en 1949 ou même la Chine commence en 1966. Mais finalement, c'est pas tellement le point de vue des Chinois. Je crois que l'historiographie chinoise en Chine populaire a plutôt essayé de nationaliser l'histoire, c'est-à-dire de chercher des coupures qui ne soient pas des faits importants pour les Occidentaux. Par exemple, ce qui explique qui considère, par exemple, le mouvement du 4 mai 1919 comme l'entrée dans l'histoire, dans la période contemporaine.
C'est toujours dans le cadre de l'orthodoxie marxiste.
Oui.
Ce qui a surtout intéressé les Chinois, il y a eu un gros travail qui a été fait par les Chinois depuis 1949. En particulier, c'est toutes les recherches qui ont été faites sur l'histoire des sciences et des techniques en Chine qui a apporté énormément de choses. Mais cet intérêt aussi pour les luttes, leur intérêt aussi pour les luttes des paysans opprimés, ouais. L'histoire du Parti communiste chinois, tout ça, c'est quand même très orienté comme histoire. Et il y a certaines questions qui peuvent paraître aux yeux des maoïstes occidentaux, des maoïstes parisiens, répondre à des conceptions bourgeoises et réactionnaires de l'histoire. C'est une conception bourgeoise et réactionnaire de l'histoire que de rechercher, par exemple, quelle influence la Chine a pu avoir sur le processus qui aboutit à la Révolution française, ou savoir si les jésuites du XVIIe siècle ont vraiment apporté quelque chose à l'histoire des sciences en Chine.
Denis Lombard, vous vouliez dire quelque chose.
C'est-à-dire que les sources disponibles émanent d'une certaine classe, évidemment, de,
bien sûr,
de l'histoire de Chine, et de, enfin de la Chine. Et alors le problème maintenant, c'est de relire ces sources avec évidemment une optique différente. Alors, par exemple, toute la question des eunuques, toute la question des paysans qui n'étaient pas traités au premier plan, sur lequel il y avait quelques allusions dans les textes. Évidemment, l'effort de l'historiographie chinoise contemporaine, c'est de remettre ça en valeur et de refaire une histoire économique, qui d'ailleurs, économique et sociale, qui d'ailleurs n'est pas tellement opposée, au moins dans les principes, avec ce que nous essayons de faire en Occident depuis quelques décennies. Je ne sais pas s'il y a véritablement contradiction entre cette relecture des sources traditionnelles à la lueur d'une méthodologie plus moderne, je ne pense pas qu'on puisse leur reprocher.
Non, il n'y a pas de doute que les historiens chinois ont apporté beaucoup à la connaissance du passé de la Chine, et des choses tout à fait neuves et passionnantes. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces historiens chinois qui ont travaillé si efficacement entre 1950 et 1965 ou 63, ont pratiquement disparu de la scène maintenant.
Par rapport à certaines des traditions de l'histoire du monde chinois, pourriez-vous évoquer, dans la mesure où on le sait, comment la Chine actuelle, la Chine de Mao Tse-tung, se rattache ou ne se rattache pas à ce passé ?
Il me semble qu'il y a des données de base qui sont indispensables pour comprendre la Chine actuelle. C'est tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire cet écrasement de la Chine par le monde occidental. C'est tous les problèmes de développement de la pensée chinoise au XXe siècle. Et il me semble surtout qu'une connaissance générale de la Chine dans sa profondeur permet, de façon négative au moins, d'éviter certaines erreurs de jugement. Et je crois que c'est ça le fond de l'histoire. Je pense que, de même qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas traiter de l'Europe moderne, de l'Europe actuelle, en ignorant tout de l'histoire du Moyen-Âge, de l'Antiquité. De même, on ne peut pas parler de la Chine actuelle sans connaître l'ensemble de l'histoire de la Chine.
C'est en effet la portée générale de méthodologie historique qu'apporte votre livre. Mais avant de nous séparer, je voudrais demander à Denis Lombard et à Michel Cartier si cette conception de Jacques Gernet est la leur, et en particulier quant à l'histoire chinoise d'aujourd'hui.
Je pense que sur l'histoire de Chine contemporaine, il y a quand même d'énormes travaux de fait, non seulement dans la façon de relire les anciens textes dont on parlait tout à l'heure, mais dans tout ce qu'ils ont fait au point de vue archéologique. Il y a un passé enfoui qui ressurgit actuellement grâce justement aux travaux économiques qu'ils font, au terrassement. Je pense par exemple à Pékin, ils ont récemment organisé un métro, ils ont abattu les anciens remparts et ils ont découvert à Pékin même toute une série de choses intéressantes. Absolument. Je ne sais pas si vraiment cette histoire a défoncté, comme vous disiez, après 65-66. Je pense que la réapparition de certaines revues comme Wenwu actuellement prouve que on en a moins parlé pendant un certain temps, mais je me demande si les laboratoires et les équipes n'ont pas continué à travailler dans le silence.
Personnellement, j'ai la plus grande confiance dans l'avenir.
Aussi. Michel Cartier.
Oui, je crois que je partage l'avis de mes collègues.
情才慢慢平静了一些。想想这些年的山洞日子啊，吃的是树皮野果，庙里的贡献，忍饥挨冻，受苦受难，熬白了头发。
大春追赶白毛女，一直追到山洞边儿。
喜儿发现有人追来，急忙藏在一个角落里。
走进山洞，四处搜寻。你是什么人？
我是山上的大树，野地的烈火。烈火啊，你们扑不灭！大树啊，你们砍不倒！当成是皇家的狗腿子，满腹的阶级仇恨被逼得爆发出来了。喜儿不顾死活，猛然扑向大春。
望着白毛女，仔细一看，不禁大吃一惊，这不是喜儿吗？
难道她就是大春？
是 深仇涌心头，喜儿呀喜儿呀，这万恶的江山会一定要推翻。
这意想不到的相见使喜儿大春万分激动。
往日里的一切都涌上了喜儿的心头，多少苦和悲，多少恨和愁，多少年埋在心里的话，恨不能一下子都向大春诉说。
C'était Les Lundis de l'Histoire par Jacques Le Goff, avec Jacques Gernet, Michel Cartier et Denis Lombard, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juillet 1972. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr.